Bonjour, bienvenue, vous êtes sur Direct News Podcast by Michel Robadin. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre qui date de décembre 2011, enregistrée à Paris dans les studios de TF1 à Boulogne-Billancourt à l'occasion des répétitions de l'émission Danse avec les stars, à laquelle le patineur français Philippe Candeloro, double médaillé de bronze aux JO de 94 et 98 et champion du monde également en 94, participait avec sa partenaire danseuse professionnelle Candice Pascal. Candel, pour les intimes, comme on aime l'appeler dans le milieu, est marié à Olivia, père également de trois filles, revient sans langue de bois et on le connaît avec un certain franc-parler sur sa carrière, ses médailles, regard également sur son sport plutôt pratiqué par les filles, son succès au Japon où il est une véritable icône, sans oublier en fin d'émission un questionnaire de Proust réaménagé et qui, à mon avis, vaut son pesant d'or. La première question posée aujourd'hui aux complices de Nelson Montfort sur France 2 a été « Eh bien, si c'était à refaire, referiez-vous exactement la même chose ?»
Je dirais sans hésitation oui. Parce que quelque part, j'ai eu pas mal d'embûches, pas mal de difficultés quand même pour arriver à faire tout ce que vous avez pu citer maintenant. Ça tombe bien pour la radio.
Radio Cité. C'est ça. C'est bien. C'est un bon jeu. Ça commence plutôt bien.
Ceci dit, c'est vrai que il y a eu des moments plus difficiles que d'autres, mais au résultat, quelque part, voilà, moi je me contente vraiment de ce que j'ai eu, surtout ces deux médailles de bronze olympiques, qui ne sont certes pas des médailles d'or, mais ces médailles de bronze, elles ont plus marqué l'esprit du public fan du patinage par mes interprétations de programme, pas spécialement par la couleur de la médaille que j'ai pu remporter. Bon, c'est toujours plaisant d'avoir deux médailles olympiques. C'est vrai que coup sur coup en 94-98, je suis pas sûr de revoir ça en France pendant beaucoup d'années, parce que on l'a vu avec un Brian Joubert qui avait quand même des mérites techniques et psychologiques beaucoup plus forts que moi à la base. Et on se rend compte maintenant, que voilà, de faire une médaille aux Jeux Olympiques, c'est hyper plus compliqué que ça en a l'air. Moi, je les ai eus, je vais pas remettre ça en cause, mais du coup, pour arriver à ce parcours-là, j'ai eu pas mal de difficultés aussi. Nous, à la télé, on montre que ce qu'il y a de beau. Dans le patinage, on se casse rarement la figure. Quand ça arrive, c'est vraiment la grosse catastrophe. Mais remettre sa vie en jeu sur une Olympiade, sur un simple triple axel pendant 2 secondes de sa vie, c'est vrai qu'il y a des moments très stressants. Les entraînements, c'est dur. Quand j'ai commencé à 7 ans le patinage, c'était 6 heures d'entraînement par jour. Parce qu'à l'époque, il y avait encore les figures d'école, vous savez, où c'est on ça. Tournait en rond, il fallait superposer des traces. Imaginez pour un gamin de 7 ans faire ça 3 heures par jour, mais de la géométrie sur glace, c'était un truc de barjo.
Ça
s'appelait les figures imposées et c'était très très long. On avait 3 figures à faire devant des juges qui étaient devant vous, qui parfois postillonnaient, se mouchaient, crachaient sur la glace.
Et simplement. Ça déjà, petit Philippe, ça vous branchait pas, parce qu'évidemment vous êtes fantasque.
C'est pas ce qui m'a attiré vers le patinage, c'est pas tout cet aspect artistique finalement. Et c'est paradoxal, parce que moi ce qui me plaisait, c'était la dureté de ce sport, la difficulté technique qu'il y avait autour. Ce qui me plaisait, c'était de faire des axels, des double axels, tomber, relever, faire les choses dures. Par contre, l'aspect artistique, j'en avais horreur. C'est-à-dire que dès qu'on voulait me faire lever un bras, tout ça, j'avais peur qu'on me traite un petit peu de fille. Moi qui venais d'un milieu de cité, j'avais peur qu'on me dise « tu fais un sport de tarlouse ». En gros, de toute façon, plusieurs fois, on me l'a dit. Donc,
effectivement, moi, je vous aurais plutôt vu tant qu'à être sur la glace comme joueur de hockey. Ça vous a traversé l'esprit, parce que franchement, vous avez
j'ai
plus
un
de
look.
Physique. c'est vrai, je ne vais pas être le premier qui vous le dit.
Bien sûr, en plus, c'est vrai qu'à l'époque, les hockeyeurs de Colombes faisaient du rentre-dedans pour que je vienne au club, parce qu'ils voyaient que j'avais une super vitesse, j'avais un sens de l'équilibre inné. Et ça, c'est pas moi qui ai voulu faire du patinage, c'est l'entraîneur qui m'a vu débarquer une fois avec ma classe d'école. On avait la chance de patiner une heure par semaine à la patinoire de Colombes. Qui a dit, ce gamin, il est bien, il faut me l'amener au club, faut le faire démarrer, donc il a rencontré ma mère grâce à la maîtresse d'école. Et puis après, j'ai découvert ça au club, donc c'était 2 heures par semaine, puis 4 heures, et puis l'année d'après, tout de suite, hop, sport-études. Donc c'est comme ça que ça a démarré, parce que c'est pas moi qui ai voulu faire du patinage, je savais même pas ce que c'était avant de découvrir ça avec l'école.
Philippe, si on revient un petit peu sur cette carrière, vous l'avez dit, évidemment, 2 médailles olympiques, hein, même, j'ai envie de dire, de bronze, ça n'est pas rien. Qu'est-ce qui a manqué quand même pour être sur le podium, une ou deux marches de mieux?
C'est difficile à dire, parce que techniquement, en fait, j'étais pas vraiment très loin de mes concurrents directs. Hein. À l'époque, c'était Alexei Yurmanov et Elvis Stoïko a été le leitmotiv, et toujours on se titillait l'un et l'autre. Mais c'est vrai que lui, on l'appelait le bourrin du Canada. Et c'est vrai qu'il était toujours très fort. Il était aussi fort que moi mentalement. C'est-à-dire que c'est pas un mec qui flanchait, quoi. Et c'était un des premiers mecs à faire le quadruple dans les programmes. Moi, je disposais pas assez de maturité sur le quadruple pour pouvoir me permettre de le mettre dans un programme. J'ai eu fait le quadruple boucle piqué et aussi le quadruple lutz à l'entraînement, mais jamais assez fort à l'entraînement pour me permettre de le mettre en compétition. On préférait assurer du triple axel, triple boucle piqué, bien, quitte à mettre deux triple axel dans le programme, et à l'époque, ça suffisait pour gagner des médailles d'or. Mais avec l'arrivée d'un Urmanov qui faisait le quadruple, un Stoïko qui faisait le quadruple, on va se dire que techniquement, c'était normal que je sois derrière. Par contre, artistiquement, j'apportais peut-être un petit peu plus de fantaisie qui, à un moment donné, sur une faiblesse d'un de mes concurrents, je pouvais m'introduire sur une troisième marche, pourquoi pas une médaille d'argent. Alors, les Lameurs, ça a été troisième, et puis tout de suite derrière, je fais deuxième médaille d'argent à Makuhari au championnat du monde, toujours derrière Elvis Stoïko. Ce qui a un peu faussé le jugement en 94, c'est que les professionnels avaient le droit de revenir à la compétition. Et souvenez-vous, il y avait Brian Boitano, il y avait Kurt Browning qui était là, il y avait Victor Petrenko qui étaient eux-mêmes tous des champions olympiques pratiquement, sauf Kurt Browning. Et on s'était dit, nous, entre Stoïko, Urmanov et moi, il y aura qu'une place pour un jeune blanc-bec. Donc ça voulait dire qu'il y avait une place pour une médaille de bronze, je pense, dans notre tête, ça a murgé comme ça. Et quand on a vu que tous ces ténors, les Browning, Boitano, tout ça, se sont cassés la figure au programme court, ils étaient trop loin dans le classement pour revenir. Et moi, j'étais cinquième, j'étais encore outsider, cinquième au programme technique, j'avais fait mon job. Et il y avait encore toujours de l'espoir pour cette médaille de bronze, sauf qu'à la fin, ça s'est terminé par les trois blancs-becs sur le podium. Et tous les anciens pros qui étaient revenus à la compétition, eux, avaient raté de quelques marches le podium.
Vos médailles, aujourd'hui, elles sont où, Philippe? Vous les avez chez vous, sur la table de nuit?
Celle de Lillehammer, elle est dans un cadre, parce que j'avais fabriqué un truc avec tout le symbole du parrain, avec marqué, on avait fait des t-shirts, Candeloro, machin. Et celle-là, je l'ai enfermée dans un cadre, comme ça, elle s'abîme pas, parce que le bronze, avec la pierre d'une des montagnes de Hamar, il me semble, de Lillehammer, en Norvège, le bronze s'abîmait si on la laisse à la lumière du jour.
Donc, l'or s'abîme moins, du reste. Hein,
l'or s'abîme moins,
juste comme ça, en passant.
Si j'avais pu gagner l'or, ça m'aurait évité de me payer un cadre pour l'enfermer. Mais au moins, je la vois tous les jours, puisqu'elle est presque à l'entrée de ma chambre. Donc, j'aperçois cette médaille un petit peu tous les jours. Et celle de Nagano, qui, à mon sens, est plus belle, plus jolie. Elle représente peut-être plus de choses pour moi, parce que je savais, en allant à Nagano, que ça allait être ma dernière compétition sportive. Et que ça se termine avec un super programme de D'Artagnan au Japon, au pays du soleil levant, là où toutes les japonaises m'aimaient bien.
Ils sont folles de Philippe Candeloro,
on va dire qu'elles étaient. Après, il y a une nouvelle génération.
Ça vient de quoi, ça, Philippe?
J'en sais rien. C'est peut-être parce que j'avais un peu plus de poils sur le torse que mes autres concurrents, peut-être. J'en sais rien. Non, mais je sais pas.
Et vous patinez toujours bien, parce qu'à noter justement qu'il y a eu Nagano et il y a eu aussi le championnat du monde. Donc, qu'est-ce qui vous fait bien patiner au Japon? C'est quoi? C'est les sushis? C'est l'air de...
C'est que j'ai pas de sushis, justement.
Il y a pas de sushis.
En fait, j'avais posé plusieurs fois la question à une fan japonaise, notamment celle qui est devenue aussi
après,
la responsable
du blog. Ça devient un peu psychologique. C'est-à-dire que quand on... C'est vrai que le succès appelle le succès, non? On
est
un peu...
Oui, je pense que ça motive. C'est-à-dire quand les juges...
On se dit, je suis au Japon, donc je vais être bon.
Il n'y a pas que ça. Et ça peut aussi, vous savez, quand on vous pousse vers le haut, ça peut aussi vous mettre plus de pression. Et à ce moment-là, la pression, des fois, ça peut faire l'effet inverse. Mais ce que j'avais posé la question aux Japonaises, ils disent, pourquoi moi et pas Stoïko ou les mecs qui étaient devant moi à l'époque? Et ils disent, je sais pas, parce que, en fait, c'était au moment où l'adolescence japonaise était en train un peu de se réveiller. C'est-à-dire que les Japonais, quelqu'un de très strict, très droit, qui respecte tout le monde, toujours à bien respecter les règles et tout ça. Et moi, ils ont vu un mec comme moi, qui, dans un milieu un peu coincé, à l'image peut-être de certains rituels japonais, ils se sont dit, ils ont vu un mec débarquer sur la glace, torse nu, en train d'enlever son drapeau américain et de patiner sur Living in America, et puis de dire, allez vous faire foutre, finalement, je fais ce que je veux, parce que c'est comme ça que je vois les choses, et que je m'amuse, et que ça marche. Et je pense qu'elles se sont un peu reconnues, parce que en 15 ans de temps maintenant au Japon, puisqu'on parle au moins avec 15-18 ans de recul, on regarde aujourd'hui que l'extravagance de la jeunesse japonaise, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai connu moi en 94 là-bas, quoi. Donc je pense qu'il y a eu un espèce de... C'est pas moi qui ai lancé le déclic de tout le monde se fout à poil au Japon maintenant, mais simplement pour expliquer, je crois que ça a été une espèce de réveil psychologique où ils se sont dit, dans un milieu coincé, lui il est arrivé, pourquoi nous finalement on n'aurait pas le droit de s'exprimer? Et c'est comme ça que les Japonaises pouvaient s'exprimer, c'était en allant me lancer des cadeaux, des peluches, des fleurs sur la glace, alors que à l'annonce dans l'enceinte de la patinoire, on leur disait vous devez applaudir tout le monde de la même manière, vous devez respecter les règles et tout ça. Et puis après c'est devenu une espèce de jeu. Et du coup, moi ce qui me faisait marrer, c'est que quand il y avait Stoïko qui devait patiner derrière moi, il a attendu 25 minutes avant qu'on enlève toutes les fleurs sur le truc. Et c'est là qu'on voit la force du mec. C'est que même 25 minutes supplémentaires à tourner autour de mes fleurs et tout ça, alors que il voyait que moi j'avais fait un bon programme et que je pouvais lui piquer la médaille d'or à ce moment-là, le mec, il a pas flanché, quoi. Et moi, j'aime la compétition quand il y a de l'adversité où le gars, il flanche pas. Et voilà, c'est pour ça que je suis très fair play aussi dans ma discipline, dans quoi je m'investis. C'est que si j'ai été moins bon, c'est normal que je perde. Par contre, c'est un peu embêtant quand on gagne et qu'on a l'impression de pas avoir tout fait qu'il fallait pour gagner.
Alors, évidemment qu'on préfère parler de ce qui a bien été, hein. On vient de le dire, il y a eu l'île amère, il y a eu Nagano. Peut-être une...
Et la mer n'a pas été très amère pour moi.
Ouais, exactement. Encore un petit jeu de mots, mais on les apprécie.
C'est grâce à vous, en fait.
On les apprécie. Peut-être, si on parle des regrets, déceptions, il y a quand même eu Albertville,
c'est
chez
Albertville.
Vous.
Oui,
ça, c'était
vrai.
Horrible, parce que troisième du championnat de France, juste pas qualifié. Est-ce que ça, c'est toujours un peu en travers de la gorge?
C'était un moment très douloureux pour moi, parce que ça a été pour moi une espèce d'injustice. C'est-à-dire, championnat de France, comme vous le dites, je finis troisième. En plus, c'était le championnat de France qui avait lieu à Colomb, chez moi. Je fais une erreur sur le programme technique, on me fait pas de cadeau, on me met sixième. Quand on veut aider quelqu'un dans le patinage, on a tendance à pouvoir le faire. Vous le savez très bien, tout le monde le sait. On met pas des tocards sur les premières marches du podium, mais à défaut de qualité, ça joue à pas grand chose. Et puis après, c'est un peu ce qui se passe dans les couloirs derrière que ça se négocie. Là, on me fout sixième au programme technique. Le lendemain, je fais un super programme libre, mais je finis pas deuxième, je finis troisième. Je gagne le programme libre, mais je finis troisième du fait que la veille, j'étais sixième. Et là, on annonce tout de suite la sélection olympique, alors que d'habitude, il se passe toujours 15 jours de délibération. De prendre le temps à la réflexion, à la fédération, au CNOSF et tout ça. Et là, le soir même, des championnats de France où je termine troisième, on annonce tout de suite Milo Pétorin à Albertville. Et donc, moi, je m'effondre parce que, voilà, je sais très bien que des Jeux Olympiques en France, on n'en aura pas avant 20 ans ou 30 ans, peut-être. Donc, je me dis, voilà, c'est foutu, c'est mort, et j'ai failli arrêter le patin à ce moment-là. Ou alors aller partir patiner pour l'Italie.
Alors, un qui a failli vous faire arrêter le patin, là aussi, c'est votre ami Didier Gaillaguet.
Bah oui, parce qu'à l'époque,
lui,
de toute façon, dans ce...
Qui
dans
n'est
ce...
autre que le président, hein,
actuel,
noté, actuel de,
ah ouais.
de la Fédération française de, des
c'est
sports
ma bête
de glace.
C'est ma bête noire de toute ma carrière, Didier.
Voilà.
Et en même temps, c'est un homme que je respecte, parce que c'est un des seuls, peut-être, qui a cette ambition de vouloir faire avancer les choses dans le patinage. Et c'est pour ça que j'arrive pas à être à 100% complètement contre lui. J'essaye de lui expliquer de temps en temps qu'il faut qu'il sache faire passer, il faut qu'il fasse passer la main. C'est-à-dire que notre sport, il évolue pas, il est en train de mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de jeunesse aux commandes et que les gens peut-être en ont marre de s'être fait berner peut-être une fois par cet homme-là, parce que c'est quelqu'un qui veut faire avancer les choses, mais c'est toujours cet esprit un peu de renard qui traîne chez lui. Et les gens se sont tous fait au moins avoir une fois, voire deux fois, parce qu'on lui donne toujours le bénéfice du doute de dire, bah, rachète-toi, prouve-moi que t'es capable de te racheter, et j'ai pas eu tort de penser que t'étais un homme bien au fond.
Il faut prendre sa place, Philippe.
Mais je lui ai demandé, moi, je lui ai dit.
Il est indéboulonnable.
C'est pas à moi d'aller te piquer la place à la fédération, c'est à toi de demander de prendre le relais pour que je devienne président de la fédération. Comme ça, on avancera ensemble. Toi, tu redoreras ton blason au niveau international. Et comme son but, c'est quand même le but ultime de Didier Gaillet, c'est de finir président de la fédération internationale. Sauf qu'aujourd'hui, il y a trop de gens contre lui parce qu'il a trop de gamelles au derrière, comme on dit. Et que les gens ont gardé à l'esprit le problème de Salt Lake City. C'est pour ça que quand il doit prendre sa valise et aller chercher des sponsors ou de l'argent pour aider la fédération française, les gens ont toujours ça à l'esprit. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on change d'image. Sinon, on n'y arrivera jamais. Et le patinage va continuer de dégringoler comme ça au niveau sportif. Au niveau mondial, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a l'Asie qui a pris le devant. Les États-Unis, pareil. Là, c'est vrai, il y a la Coréenne aussi qui est arrivée entre-temps. Donc... En France, on a quand même une bonne équipe féminine qui est en train de grimper, mais il faut leur laisser le temps. Et puis, il faut surtout que la fédération fasse confiance aux entraîneurs qui ont formé ces jeunes filles. Et à chaque fois qu'on commence à en avoir un bien, tac, on va le piquer de son réseau ou de son vivier, là où il s'entraînait tout le temps avec son entraîneur, et on va essayer de le faire changer d'entraîneur pour le mettre dans un pôle ou un machin.
C'est
et
ce après, que vous avez pas voulu,
c'est
précisément.
C'est ce que j'ai pas voulu. Et à l'époque, c'était toujours Didier Gaillaguet qui m'avait demandé d'aller à Champigny, à l'INSEP, et de quitter Monsieur Brunet, qui était l'entraîneur qui m'avait formé jusque-là. Et c'est pour ça que ça a été ma bête noire toute ma vie. C'est parce que j'ai eu l'affront à 10 ans de lui dire, je vais rester à Colombe parce que la patinoire est à 10 minutes de chez moi. J'ai un entraîneur qui m'a formé jusqu'à ce niveau que j'ai aujourd'hui et je lui fais confiance. C'est tout. Et j'ai pas envie de changer. J'ai pas envie de quitter ma famille. J'ai pas envie d'aller dormir à l'INSEP tous les soirs. Donc, il faut avoir le courage, en fait, de temps en temps, de pouvoir dire non. Et ça, s'il y a les gens du patinage qui m'écoutent, les parents qui ont des enfants qui sont doués dans ce sport, vous avez fait confiance à un entraîneur qui vous a porté jusqu'ici, qui a porté votre enfant jusqu'à un certain niveau. Je pense qu'il faut lui donner la chance de pouvoir aller le plus loin possible avec cet entraîneur.
On ne change pas une équipe qui gagne, finalement.
On change pas une équipe qui gagne. Ça, c'était les paroles de mon entraîneur, ouais, André Brunet, qui disait toujours ça. Et il a su me mettre en confiance et jusqu'au bout, j'ai toujours cru en lui parce que ces hommes-là ou ces femmes qui vous entraînent pendant 20 ans, C'est les seuls qui resteront avec vous, quoi qu'il arrive.
Et qui vous connaissent réellement.
Ils vous connaissent bien.
Dehors, sur la glace.
Moi, j'ai toujours vu Brunet à côté de moi, dans l'arène, où il est avec moi dedans. Il est à l'extérieur pour visuellement, mais il est avec moi dans l'arène. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, je peux tomber 10 fois, 15 fois, ce sera le mec qui m'aidera toujours à me relever. Alors que les autres, le jour où t'es dans le fond du trou, là, ils en ont rien à faire parce que vous avez pas fait briller votre fédération, ni le mec qui vous a amené jusqu'ici. Alors que l'entraîneur, lui, il a qu'une mission, c'est de vous rendre toujours et vous faire rester humain. Et pas seulement un produit ou juste un athlète qui a rapporté des médailles à Pierre, Paul ou Jacques. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut énormément faire confiance. Moi, j'ai eu 30 ans d'histoire avec Monsieur Brunet. Et je continue aujourd'hui quand je vais sur la patinoire à l'appeler de temps en temps. Je dis, bah, je vais à Colombe, viens, on va patiner ensemble parce que je sais que ça lui fait plaisir. Et puis moi, ça me défoule un peu.
Philippe, vous êtes peut-être né un petit peu trop tard parce que vous étiez évidemment pas né lorsqu'il y avait un grand patineur, Alain Calma, qui était le ministre des sports, tout simplement. Ça, c'était
je
dans les années 60.
Bah, je suis né quand il est devenu champion du monde, je crois, Alain Calma. Non?
Ah, vous étiez déjà...
Je suis né en 72, moi. Ou alors c'est...
Non,
Gilles Etti, je crois, en 72.
C'est ça.
Et Calma un petit peu avant.
C'est ça, ouais. C'est ça. Là, ça aurait été pratique. Il aurait peut-être pu mieux vous comprendre que tous les autres.
Ouais, Alain a une ouverture d'esprit un peu plus grande que Didier, Gay. Mais bon, après, vous savez, les générations, ça passe tellement vite. Aujourd'hui, les gens veulent du résultat très rapide. Il faut qu'on sache donner plus de ludique sur notre milieu et notre univers de la glace. C'est pour ça que le monde du spectacle, pour moi, est plus intéressant à développer que le monde sportif. Ça veut pas dire que je renie d'où je viens, puisque je viens quand même du monde du sport.
On a l'impression que vous auriez été presque plus heureux chez les professionnels que chez les amateurs, finalement. Vous êtes d'accord avec ça?
Je ne regrette pas d'avoir fait une carrière chez les amateurs, parce que c'est ce qui m'a valu.
On a l'impression que les juges vous ont jamais vraiment non plus... Enfin, vous n'êtes pas le seul, hein, complètement compris.
En fait, ils m'ont donné parfois des médailles de complaisance, parce qu'ils avaient peut-être personne d'autre à foutre à la place à ce moment-là. Et que, mine de rien, un petit fanfaron comme moi qui vient foutre un peu son bazar... Ça amène de la médiatisation à ce sport et le seul souci, c'est que moi je me dis dans le business du patinage au niveau international, c'est les Américains qui amènent le business financier, les Russes qui amènent le business au niveau artistique et technique parce qu'ils ont d'excellents éléments à nous montrer sur la glace et de temps en temps, il y a un peu de Français ou un Suisse qui débarque et qui va amener un petit intérêt, pas forcément qui va amener du pognon entre guillemets à la fédération internationale, mais qui va amener de l'intérêt à ce sport. Et l'ensemble de tout ça fait que le patinage continue plus ou moins de bien marcher.
Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'un Philippe Candeloro, enfin une personnalité comme ça, quelqu'un d'un peu différent, un peu atypique, c'est vrai que ça manque complètement. C'est devenu
assez fade. Ça manque et en même temps, moi je fais peur. Je fais peur aux gens quand, parce que j'ai pas ma langue dans ma poche, je dis les choses. Parce que je dis les choses pourquoi? Pour que les choses puissent avancer, si on garde tout pour
mais
nous.
Mais ça les fait avancer, vous pensez?
Bah, je trouve que, il y a une quinzaine d'années, on avait.
Un peu une balle dans le pied, ou ça peut finalement peut-être.
Aujourd'hui, moi, j'ai peur pour le patinage, parce qu'en fin de compte, on a fait un retour en arrière catégorique. En plus, on a changé le système de notation, qui est parfois mieux, pour être, on va dire, moins subjectif au niveau technique. Bah, alors, au niveau artistique, on peut toujours faire des magouilles si on a envie. Et ce que je trouve bizarre et dommage, c'est qu'on a enlevé toute l'interactivité qui existait avec le public. Quand un juge devait mettre une mauvaise note pourrie, là, avec 5 dixièmes de moins que celui qui avait voté normalement, eh ben le mec, il est obligé d'assumer sa note. Il fallait qu'il lève les pancartes. Et on pouvait le siffler, et on pouvait le reconnaître dans la rue. Alors que là, aujourd'hui, c'est qu'un computer qui vous sélectionne les meilleurs.
Plus anonyme.
C'est plus anonyme. Et même nous, gens du milieu, c'est très difficile d'avoir un protocole pour pouvoir analyser la compétition sur le moment même. On peut avoir le protocole, il faut le demander, et on l'a un petit peu plus tard que la fin de la compétition. Donc c'est, quelque part, c'est moins transparent. Et je trouve ça dommage parce que le public ne peut plus trop s'exprimer à part sur un total de points.
Philippe Candeloro, aujourd'hui, vous êtes dans l'un de vos métiers, j'allais dire, occupation, vous êtes consultant à France Télévisions avec Nelson Montfort, des commentaires évidemment haut en couleur.
Salut, je crois qu'il intervient souvent sur votre antenne.
Tout à fait, Nelson est un ami, je crois qu'on n'ayons pas peur des mots. Qui justement, dans les compétitions de patinage aujourd'hui, vous fait rêver? Qui vous enthousiasme?
Écoutez,
enfin, pour autant qu'il y en a un, peut-être pas.
Les Français, on est toujours derrière le cœur des Français parce que voilà, on est patriotique, je pense, les uns et les autres, on l'est tous quelque part.
Brian Joubert vous enthousiasme pas quand même, Philippe?
Bah, quelque part, sportivement, il a quand même marqué bien les esprits là des 4-5 dernières années. Le problème qu'il a eu, c'est qu'il a pas dégagé assez de sympathie auprès des gens pour être aidé et supporté moralement tant que physiquement. Après, on a aujourd'hui Flora Amodio qui prend un petit peu la relève et qui pousse malheureusement Brian Joubert vers la sortie. Et c'est ça qui est malheureux et dramatique pour un athlète. C'est de se sentir obligé de partir et qu'on ne l'a pas décidé. Et moi, c'est ce qui s'est passé en 98. Je suis parti parce que j'ai dit ça serait ma dernière compète. Et c'est génial de partir comme ça parce que rien, moi, me fera devenir aigri. Alors peut-être que du coup, Brian, s'il n'a pas été au bout de son rêve, au bout de ses choses, peut-être qu'il va regretter beaucoup de choses dans sa vie future. Yuna Kim, par exemple, est une très belle patineuse. Je trouve qu'elle apporte pour une Asiatique beaucoup de féminité, beaucoup de beauté sur la glace, sauf que les Japonaises ont peut-être plus de mal à faire passer comme émotion sur la glace. Cette Yuna Kim, elle a apporté de la féminité, du sport, parce qu'elle est très technique aussi, et sans paraître masculine. Voilà. Après, bon, moi j'aime bien Mao Asada, parce que si on veut parler sur le plan féminin, après en artistique, j'aime bien le couple chinois parce que alors c'était Zhang Zhang, j'aime bien Zhang Zhang. Bon, ils m'ont laissé un souvenir assez inoubliable, dramatique mais inoubliable de Turin quand la fille s'est presque écartelé les jambes et qu'elle a fini dans la balustrade, je pense qu'on s'en souvient tous. Chez les garçons, bon bah il y a votre patineur suisse Stéphane Lambiel qui m'impressionne et qui continue de m'impressionner parce que je le revois en gala souvent et je me dis putain les gars, même quelques années après, il doit moins s'entraîner.
Quelle relation avec lui, Philippe, c'est quelque chose beaucoup
très bonne relation. On se parle, on n'est pas amis parce qu'on se voit pas assez pour dire qu'on est amis fidèles et on se quitte pas. Mais en tout cas, on a du respect l'un pour l'autre. Lui, on a toujours eu pour moi par rapport à ce que j'ai pu amener au patinage.
Vous correspondez un peu à... Enfin, je pense qu'il se serait senti plus proche de vous que de Brian Joubert, n'ayant pas peur des mots, par exemple.
C'est plus la tranche d'âge et la génération de Brian Joubert, Stéphane Lambiel, puisqu'il est venu après
moi. Pas au niveau de ce qu'il fait sur la glace.
Pas au niveau de ce qu'il fait sur la glace. C'est pas tout à fait le même tempérament. Je pense que Stéphane a d'ailleurs souvent choisi plus l'aspect artistique que technique. Il avait sa bête noire qui était le triple axel et qu'il aime toujours pas ce saut, mais de voir un Stéphane Lambiel aujourd'hui, après quelques mois, quelques années de compétition en arrière, il continue de faire le quadruple saut en gala. Et ça, moi, je trouve ça bien parce que c'est toujours ce que j'ai essayé, moi, d'apporter. Et je pense que j'ai transmis des choses à ces jeunes patineurs comme Lambiel, comme Joubert, hein, tout ça. C'est pour ça qu'il faut toujours respecter ses aînés parce que moi, j'ai été formé par qui? Pas seulement par l'entraîneur. J'ai été aussi formé par tous les autres champions que j'ai pu voir dans le passé. Moi, Kurt Browning était ma source d'inspiration, par exemple. Parce que je voyais le mec faire des quadruples, faire des triple axel, les doigts dans le nez. Brian Boitano, pareil. Si j'avais pas eu ces mecs-là, j'aurais peut-être pas eu la présence de me dire que le minimum que je dois faire sur la glace était un triple axel. Donc, moi, je sais très bien que ces gamins qui étaient des gamins à l'époque où moi j'étais en train de terminer ma carrière sportive, ils se disaient, ouais, Candeloro, on s'en souvient parce que c'est le programme de D'Artagnan. On a laissé une petite trace dans la tête de ces gens-là et je pense que ça a été leur leitmotiv pour dire, j'ai envie de faire comme eux, comme moi à l'époque avec les Duchesnais, par exemple.
Philippe Candeloro, justement, vous avez parlé de D'Artagnan, il y a eu Conan, il y a eu Lucky Luke, il y en a eu plein d'autres, il y a eu le parrain, enfin, il y a eu... Dans quel costume vous êtes le mieux, le vrai Philippe Candeloro, c'est lequel? C'est D'Artagnan, c'est Lucky Luke, c'est quoi?
En fait, quand on me pose cette question, il n'y en a pas un que j'ai aimé.
Ah, je pensais qu'elle était originale, on vous l'a déjà posée, donc.
Oui, bien sûr. J'ai pas préféré un choix plus qu'un autre. Ils ont tous contribué, en fait, à la réussite générale de ma carrière. Il y en a peut-être un que j'ai bien aimé, c'était Brevard. Pourquoi Brevard? Parce que Brevard mondialement était connu. C'est-à-dire que je débarquais sur la piste avec la peinture sur le visage, tout le monde savait de quoi j'allais parler, avec le kilt en plus. Il n'y avait pas besoin d'expliquer. Parce que quand on part dans une explication d'un programme qui dure que 4 minutes, tiré d'un film qui dure 2 heures, où vous n'avez pas le droit à la parole, vous ne pouvez pas expliquer ce que c'est vachement dur quoi. Brevard durait à peu près 6 minutes 50 comme programme. J'ai dû être un des mecs qui a fait les programmes les plus longs de toute sa génération parce que je faisais des programmes, des fois on me disait « Ah, c'est long, hein. » J'ai fait un medley d'une fois qui faisait 12 minutes, avec en reprenant tous les personnages, commençant par Conan, le parrain, Lucky Luke, Napoléon derrière et D'Artagnan en finissant.
Magnifique.
Et franchement, c'était dur. Puis les gens, ils étaient contents parce qu'ils revoyaient en l'espace de 12 minutes, finalement, 5-6 années de carrière sportive enchaînée. Donc je les aime tous parce que pour moi ils représentent tous quelque chose. Voilà.
On va peut-être laisser juste un peu le patinage quelques instants si vous êtes d'accord.
Alors parlons femmes un peu.
Alors on peut parler de femmes quand vous voulez. Ça va venir. Vous croyez pas si bien
dire. On dit que les Suisses sont pas très chauds.
Mais vous en avez quatre à la maison.
Quatre femmes à la maison.
C'est du boulot. Ça comment
j'apprends à connaître les femmes depuis quelques années.
Comment est-ce qu'on gère ça? Une femme, trois filles. D'abord vos filles. Est-ce qu'elles sont forcément fières de leur papa? Est-ce qu'une comme ça va peut-être suivre le papa.
Moi, il y a un truc que j'ai aimé par rapport à mes filles, c'est que quelque part, j'ai pu continuer à m'exprimer sur la glace et elles ont pu le voir. Ça veut dire que pour elles, je suis un papa un peu jeune, encore un peu dans le vent. Je suis pas vieux, je suis pas un retraité. Et je pense que ça, c'est bien parce que ça leur transmet quelques valeurs et puis ça me fait participer et faire des choses avec elles. C'est monstrueux. Moi, de faire voir à mes filles que je suis encore capable de faire un saut périlleux sur la glace, elles, ça les impressionne. Et puis moi, ça me rend fier de pouvoir leur faire voir ça avant qu'il soit trop tard. Et du coup, j'ai une fille qui fait de la gymnastique et de la danse classique. J'en ai une autre qui est plus...
Mais pas une du patin, alors.
Le patin, j'ai pas poussé, hein. Franchement, je vous le dis. Puis elles m'ont pas réclamé tous les jours d'aller faire du patin. Donc j'ai dit, si elles me réclament pas... Il y a la petite dernière, Talia, qui, elle, demande un petit peu plus à y aller. Bon, c'est un peu plus une casse-cou. Et elle, par exemple, on voit un peu des prédispositions pour tout ce qui est avec un volant ou un guidon dans les mains. Donc peut-être de la Formule 1, je sais pas. Mais comme le karting, où on peut pas commencer avant l'âge de 7 ans... Avec ma femme, on regarde nos filles évoluer. La première, par exemple, on voit bien qu'elle fera pas non plus quelque chose dans le sport en termes de physique. Par contre, sur le côté artistique, elle est très cérébrale, elle ressemble beaucoup à sa mère, elle organise tout bien, propre, donc on sait un petit peu vers quelle voie les diriger. Et en plus, comme nous, on a fait tous les deux, moi et ma femme, des métiers un peu artistiques.
Votre femme est chorégraphe. Hein.
Ma femme était danseuse, elle est devenue chorégraphe, elle est chorégraphe sur glace, elle est metteur en scène maintenant là du futur spectacle qui va venir d'ailleurs bientôt chez vous.
En février, on peut déjà faire
en février. Le dimanche 4 février,
on y sera. Voilà, racontez-nous juste comme ça, comme on est en plein dedans.
La veille, le 3, on sera à Annecy, et le 4, donc on vient à Genève. Et du coup, ce spectacle s'appelle Le Tour du Monde en 80 jours, qui est du théâtre sur glace. Voilà.
Ça, c'est Jules Verne et vous.
C'est le roman de Jules Verne. Et moi, j'ai pris le rôle, il y a très peu de temps, de Phileas Fogg, puisque ce spectacle a tourné pendant un an avant que je me décide de prendre le rôle de Phileas Fogg, parce que j'avais toujours dit que je voulais me lancer dans le théâtre, faire un petit peu de comédie. Et en même temps, là, pour le coup, on a à la fois des comédiens, mais aussi des patineurs. On vient avec de la glace synthétique qu'on peut poser n'importe où. Et le but, c'est de les poser dans les plus grands théâtres de la planète, pour justement arriver le matin, pouvoir jouer l'après-midi, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que de monter une patinoire de glace n'importe où, déjà, les gens vous acceptent pas, parce que dans certains théâtres mythiques, on vous laisse pas venir avec de l'eau glycolée comme ça. Et en plus, il faut 2 à 3 jours pour la mise en glace. Et aujourd'hui,
pour un patineur au niveau Philippe du toucher, alors, de la sensation.
Moi, je vais être très clair. Quand on fait
c'est un peu comme l'herbe artificielle au foot ou bien.
C'est ça. Je pense que les sportifs comme nous sur la glace synthétique, forcément, on souffre plus parce qu'on perd 30% de notre puissance. C'est-à-dire que dès qu'on arrête de pousser, on ne glisse plus, on glisse moins.
C'est plus fatigant.
C'est beaucoup plus fatigant pour nous. Par contre, pour l'œil du public, moi, je trouve que ça n'enlève rien à la magie du déplacement. Et puis là, on met quelque chose en place qui rejoint la comédie et le sport. Par contre, on vient pas là pour faire des triple axel. Il faut être clair. Je veux dire, moi, on a monté un spectacle et du théâtre sur glace et pas un championnat du monde. C'est-à-dire qu'il faut pas venir voir ce spectacle en vous disant, je vais passer une très belle après-midi de patinage. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment du théâtre, une comédie qui est écrite à la fois pour les parents comme pour les enfants. Parce que les enfants sont très émerveillés par tout ce qui est costume, parce qu'à chaque fois qu'on visite un nouveau pays avec Phileas Fogg, il est poursuivi par l'inspecteur Fix et il est aidé par son majordome Passepartout, qui sont deux comédiens professionnels. Et moi, je suis très fier que dès mon entrée au théâtre, finalement, je partage l'affiche avec des comédiens professionnels qui m'apprennent le métier beaucoup plus vite que si j'étais parti en formation pour aller dans des classes et tout ça. Donc à chaque fois qu'on visite un pays, il y a un ballet qui se passe avec 12 patineurs. Et puis, il y a des intermèdes avec de la comédie, justement, qui est très sympa, qui est bien écrit. Ça a été coécrit avec Olivia et Sophie Gézéquel, qui ont reformaté un peu les textes pour que ce soit un peu moins embêtant ou ennuyant pour éventuellement les parents qui amènent les enfants. Voilà, parce que nous, on est parents de 3 filles, justement, comme vous le disiez tout à l'heure. Et quand on va voir certains spectacles, pendant 1h15, 1h30, c'est très lourd pour nous. Il faut attendre. Les enfants sont contents, mais les parents, souvent, s'embêtent. Et on n'a pas voulu reproduire ça à travers le Tour du Monde en 80 jours.
Et si on parlait, Philippe, de Danse avec les Stars? C'est quand même l'émission qui vous rend célèbre, qui vous a rendu célèbre. Justement, on parlait de vos filles et peut-être de votre femme. Le fait de vous retrouver comme ça, finalement, dans une situation assez proche, hein, on peut l'imaginer,
difficile, de
Candice Pascal. Comment est-ce que vos filles, votre femme, comment est-ce qu'elles ont vécu ça? Il n'y a pas eu un peu de jalousie? Ça a bien passé au niveau de la famille?
Olivia n'a pas eu du tout de jalousie envers Candice, puisque on vient d'un milieu artistique. Elle a fait de la danse. Elle sait très bien ce que ça veut dire quand on est partenaire sur une scène et quand il se passe quelque chose. Moi, je suis marié, j'ai 3 enfants. J'ai pas participé à Danse avec les Stars.
Pour profiter de la situation.
Pour que derrière, je me tape un divorce ou quoi qu'est-ce. Donc, c'est vrai que dès le départ, il faut savoir mettre des barrières. Et c'est là que c'est pas évident, et c'est là où je remarque que pendant des années, qui moi ai côtoyé des copains comme Moniotte Lavanchy, qu'on fait de la danse sur glace, de supporter une partenaire avec qui on n'a pas de rapport sexuel, qui peuvent parfois réparer les discords de l'entraînement, je pense que c'est très 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 difficile, quoi. C'est que moi, j'ai jamais patiné avec une partenaire, donc il a fallu que je m'adapte. La danse sur glace, j'en ai jamais fait. apprendre le tango, le cha-cha, tout ça, pour moi, c'était quelque chose de complètement nouveau. Donc, il a fallu en plus que j'élimine tous mes automatismes de sportif, de patineur artistique avec des sauts et tout ça, puisque nous, on est beaucoup en flexion un petit peu sur l'arrière. J'ai les jambes arquées, je suis pas très grand, je suis un petit peu voûté. Toutes les danses standards où il faut avoir un cadre comme le tango et tout ça, c'était hyper dur pour moi. Mais moi, j'ai pas reculé devant le challenge, au contraire, je me suis mis là-dedans. Et puis donc, pour répondre à votre question, ma femme était plus jalouse du temps que je passais pour l'émission, parce qu'il a fallu qu'on mette presque tout mon business à côté, parce que c'était 5 heures d'entraînement par jour, parce qu'en 4 jours, il fallait être prêt à danser 2 danses devant 5 millions de téléspectateurs tous les samedis soirs. Et c'est plus ça qui, à la fin, les filles, bon, elles sont venues avec moi de temps en temps sur les primes, elles ont vu un peu comment ça se passait, puis elles suivaient l'émission la saison dernière, donc cette année, bah, elles ont dit, papa, on n'a pas envie que tu partes, donc va le plus loin possible, quoi. Au contraire, c'était plus des encouragements que de dire, bon, il y en a marre de cette émission.
Est-ce que Philippe, c'est un bon coup? Allez, d'abord financièrement, c'est bien, c'est intéressant. Et est-ce que ça va apporter, ça va ouvrir des portes? Enfin, c'est peut-être trop tôt pour en parler.
Danse avec les stars m'a apporté plusieurs choses. C'est-à-dire que, alors, c'est pas ce qui m'a permis d'être célèbre en France, puisque je pense que vu ma notoriété,
vous l'êtes déjà, on vous rassure.
Voilà. Par contre, ça m'a ouvert à une fenêtre de popularité différente. C'est-à-dire que les jeunes enfants de 8-15 ans qui regardent beaucoup cette émission m'ont découvert, puisqu'ils me connaissaient pas. Les gamins de 10 ans savent pas qui j'étais en D'Artagnan, ils l'ont pas vu. Peut-être seulement ceux qui font un peu de patinage aujourd'hui peuvent le savoir. Et maintenant, aujourd'hui, c'est que grâce à cette émission, ces enfants-là peuvent aller sur Internet et se renseigner de qui j'étais, qu'est-ce que j'ai fait avant, et ils font une association. Donc pour moi, ça m'ouvre un état d'esprit beaucoup plus lointain dans mes futurs métiers artistiques. C'est-à-dire que les gamins de 15 ans aujourd'hui qui m'ont vu danser dans Danse avec les Stars, bah dans 20 ou 30 ans, peut-être si moi j'existe encore artistiquement sur d'autres scènes artistiques, bah ils diront bah oui, bon, lui on l'avait vu danser, on le connaît, on s'en rappelle. Comme les personnes qui aujourd'hui ont 50 ans qui se rappellent de D'Artagnan il y a 14 ans déjà. Ça passe vite le temps, mais ça m'a ouvert cette fenêtre-là. Financièrement parlant, quand on vous propose cette émission, on vous demande 2 mois de disponibilité. Donc ça veut dire que pendant 2 mois, on peut pas se vendre ailleurs.
Et là, vous êtes payé en conséquence. Et bah,
on est payé sur un minimum garanti. Puis après, chaque week-end, dès que vous restez un week-end de plus, bah, vous avez une prime. Voilà. Donc, comme je dis souvent, pour répondre à cette question, chaque prime mérite salaire. C'était une bonne formule.
C'était une bonne formule. On a vraiment l'impression, Philippe, que vous vivez, vous respirez, évidemment, patinage à fond. Vous avez d'autres centres d'intérêt, la moto, j'ai lu.
Oui, alors moi j'aime bien, je suis un touche à tout, moi. C'est-à-dire que vous dites, je respire. Donc vous respirez. Pour moi, quand je fais quelque chose qui m'intéresse, qui me fait plaisir, ça veut dire que je respire et que je suis libre. Il n'y a rien de mieux que de se sentir libre. Parce que quand vous faites des choses peut-être qui vous ramènent énormément d'argent, mais que vous êtes bloqué dans quelque chose, moi c'est pas comme ça que je conçois la vie. Donc je jouis de la vie. Je pense que j'ai encore énormément d'expériences à vivre et de choses à connaître. Je suis pas en train de dire que j'ai déjà tout vécu, mais j'ai déjà vécu tellement de choses. Même dans ma vie future, comment voulez-vous qu'aujourd'hui je retrouve des pulsions ou des sensations aussi fortes de ce que j'ai vécu à travers les Jeux Olympiques? Je pense pas en connaître d'autres. J'ai connu avec la naissance de mes enfants, le mariage. Qu'est-ce qui se passe derrière?
Mariage sur la glace, après.
Mariage sur la glace, en plus.
C'est pas rien,
donc,
ça.
Si même demain je devenais un super acteur ou un machin, je pense pas que ce soit des sensations.
Vous auriez voulu être acteur, hein.
Ouais, mais ça, pourquoi je fais de la comédie aujourd'hui à travers le tour du monde en 80 jours sur glace? C'est pourquoi? C'est parce que j'ai envie de dire, j'ai fait des cours de théâtre, je me suis investi dans ce milieu-là pour peut-être m'aider à atteindre le niveau cinéma ou pourquoi pas aussi présentation à la télévision. Ça me brancherait bien puisque j'ai une bonne cote avec mon public. Pourquoi ne pas la mettre au service de la télévision?
Vous
à travers
avez eu des propositions, Philippe, à ce propos?
Je lance des lettres à la poste. Peut-être que mon côté un peu marrant,
mais genre la gaffe, voilà, c'est ça.
Mais moi, ça serait plus dans le style de la gaffe qui présente le juste prix. C'est un style de jeu comme ça qu'il faudrait que je présente. Enfin, je vais pas vous présenter un documentaire, ça aurait ni queue ni tête.
Ça serait fait pour vous.
Mais je pense que comme j'ai un aspect un peu rigolo, franchouillard, qui fait rire les gens, sur le côté sérieux de choses que je pourrais apporter à travers du spectacle, parce que je fais aussi de la production de spectacle. Moi, j'ai envie d'amener la première comédie musicale sur glace à grande échelle, comme Dracula ou ces choses-là. Je pense que moi et ma femme, on est capable d'amener ce style de spectacle et qui est demandé. On sent qu'il y a une demande pour changer un petit peu de toutes les comédies classiques qui existent. Mais en même temps, je me dis, c'est dommage parce que les gens me trouvent peut-être pas assez sérieux pour soit gérer des budgets, soit gérer des émissions aussi importantes que ça pourrait l'être sur une émission comme Danse avec les Stars, par exemple, ou Le Juste Prix. Et je souffre un petit peu de ça parce que c'est simplement c'est cette image. J'ai une image très populaire qui plaît énormément, mais qui est un petit peu mon handicap vis-à-vis des gens qui aujourd'hui maîtrisent les business artistiques qui sont autour de moi. Voilà.
Bon, c'est vrai que vous ne laissez pas indifférent, hein, Philippe Condeloro. Soit on l'aime, soit on le déteste. Hein. Enfin,
ça, oui, alors je ne peux pas plaire à tout le monde non plus. Hein. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent un côté un peu vulgaire, un peu machin, mais en même temps, de ce que je vois dans la rue, j'ai plus de gens qui sont très sympas avec moi, à me sourire, à me serrer la main, en me disant au moins, vous, je comprends votre langage.
À Paris, vous êtes tranquille ou bien vous êtes interpellé régulièrement?
Non, c'est assez régulier, mais c'est très amical.
On vous reconnaît, vous allez faire vos courses.
Même avec le casque. Je me déplace beaucoup en moto, je suis assez reconnu encore aujourd'hui, et puis par plusieurs générations, donc c'est plutôt plaisant. Puis ça me plaît, la notoriété, le feeling avec les gens, les croiser, leur dire bonjour, prendre 5 minutes pour parler avec eux, ça me plaît, ça fait partie du plaisir que j'ai dans ma carrière. Il y a des gens, ils veulent que le plus, et puis tout ce qui est un peu embêtant, ils le veulent pas. Moi, j'ai la chance de vivre ma notoriété pleinement, quoi. Et ça me fait plaisir. Alors après, quand je suis en famille, c'est un petit peu plus délicat, parce que quand t'es en famille avec des enfants et que tu tiens par la main, tu peux pas être concentré à dire bonjour, faire des autographes et en même temps à surveiller un gosse qui passe pas sous la route.
La musique, évidemment, eh bien, qui a fait partie de quelque part de toute votre carrière, parce que Dieu sait si la musique est importante de ce que vous faites, le patinage. À ce propos, les musiques, vous les choisissiez toujours, vous, évidemment, la dernière petite retouche.
On choisit d'abord un thème. Moi, j'étais, je crois, un des premiers à... Bon, j'ai eu la chance d'avoir le petit ami de ma belle-sœur, en fait, qui était musicien. Et dès 95, j'ai commencé à demander à cette personne de me faire des musiques originales. Pour être simplement l'unique gars à patiner sur cette musique, parce que j'en avais marre d'arriver dans le patin et de voir les gens qui patinaient toujours sur les mêmes musiques, les mêmes chansons qui étaient reprises et reprises. Et à la fin, même si tu changes la chorégraphie et la musique, t'as l'impression de voir le mec qui a patiné dessus il y a 15 ans en arrière. Et là, moi, c'est vrai que j'ai commencé à faire des musiques originales qui prenaient beaucoup plus de temps, puisqu'il fallait 3 mois pour faire une musique. En plus, c'était un petit jeune qui avait pas beaucoup de moyens financiers pour s'acheter le matos. On faisait ça avec de la banque son qui était pas super qualité, parce qu'on pouvait pas se payer un orchestre. Et dès Lucky Luke, en fait, on a commencé à bosser comme ça. Et effectivement, la musique est une part très importante dans mon métier. Il continue de l'être, parce que moi, je vis tout avec la musique. Par contre, je suis pas musicien, donc je ne compte pas des temps. Et on fait de la musique un peu bizarre, c'est que des fois, on respecte pas les beats musicaux. Mais c'est aussi ce qui fait la différence de ce qu'on peut apporter sur la glace quand on crée un spectacle avec Olivia, par exemple. On a cette même manière de dire, nous, on ressent les émotions de la chanson et pas la construction de la chanson. Et je pense que ça fait beaucoup de différence. Voilà. Après, j'ai choisi les 10 commandements parce que Envie d'aimer, pour moi, c'est une des meilleures chansons qui a été faite sur ces 10 dernières comédies musicales qu'on a pu connaître en France et à l'étranger. Voilà. Cette musique me donne la chair de poule et c'est peut-être plus justement l'aspect philharmonique qui monte derrière et qui vous prend et qui vous font hisser les poils sur le corps et en même temps de patiner là-dessus, c'est extraordinaire quoi.
Et Johnny?
Alors Johnny, quoi ma gueule? J'ai choisi quoi ma gueule parce qu'à chaque fois on me disait hey, toi ta gueule, je me disais quoi ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule, à chaque fois je répondais parce que c'est une musique, souvent on se rappelle mieux des musiques quand on est enfant. Et ça nous permet de remonter un petit peu en arrière et tout ça. Et ça, c'est une des chansons qui me rappelle quand ma mère m'emmenait à la patinoire de Boulogne parce que Colombe venait de fermer, qu'il fallait se taper le périph. On avait les bouchons, il y avait cette chanson-là qui passait. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué. Voilà.
Et Claude François, c'est pas tellement votre génération, ça.
Claude François, j'aurais aimé que ce gars soit encore vivant parce que je pense qu'il nous aurait fait de la musique pendant plus de 20 ans, qu'il nous aurait déchiré la tête. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça s'en va et ça revient. Ça a été mon choix pour amener vraiment... du soleil, de la joie et quelque chose qui bouge, même si le matin où cette émission va passer, il fait un peu grisaille ou s'il neige ou quoi que ce soit, cette chanson-là vous permet de vous évader. Voilà. Après, là, une dernière chanson. Alors, c'est pas vraiment une chanson, c'est plutôt le chanteur qui m'intéresse beaucoup parce que Yannick Noah a eu vraiment une super reconversion puisque même aujourd'hui, les gens disent waouh, tu joues pas mal au tennis pour un mec qui chante. Hein.
C'est ça.
Pour un chanteur.
Vous le connaissez personnellement, Yannick?
On s'est rencontrés 2-3 fois et je trouve qu'on a exactement le même tempérament, c'est-à-dire qu'on se comprend vite. Il y a pas besoin de se voir 10 fois, de bouffer 10 fois.
Lui a eu aussi énormément de charisme, hein, c'est vrai.
Ouais, alors c'est... bon, c'est vrai qu'il avait cette passion de la chanson.
Il vous reste plus qu'à chanter, Philippe.
Non, malheureusement. C'est pas. Je dis malheureusement parce que je pourrais parler sur de la musique, mais pas chanter, parce que chanter c'est un métier. Il faut travailler. C'est un organe la voix. Il faut le travailler. Si on le travaille pas, c'est comme si vous demandiez à Rocco Siffredi s'il s'était jamais entraîné, il aurait une toute petite caquette le mec. Maintenant, il s'est entraîné et du coup, il a été valorisé comme ça.
Donc danse avec les stars, oui, mais pas.
Sauf si vous mettez un bon coup de pied dans les. Voilà, si vous mettez un bon coup de pied dans les roubignoles, peut-être que je peux faire castra. mais c'est jamais je chanterai. Je voudrais pas casser les oreilles des gens. Déjà que parfois je peux être un peu prenant à l'antenne ou quoi, mais non.
Chacun son métier.
J'aime bien si Yannick Yannick Noah, parce que franchement, voilà, il nous a tous prouvé que quand on a des passions et qu'on va au bout, on arrive à changer d'étiquette en France. Et c'est ça qui me plaît, moi, c'est d'arriver à changer d'étiquette.
C'est un bel exemple de reconversion, on est d'accord.
Et puis en plus, ses chansons sont belles.
C'est vrai.
Elles sont bonnes et tout ça. Et moi, j'aime bien. Oh, Zarm, citoyen. Et grâce à cette chanson, j'ai imaginé un show sur l'écologie. Voilà, même avec de la glace synthétique, justement, on est en pleine écologie.
On est en
et ça
dedans.
Permettrait de pouvoir faire un show en plein air.
Alors Philippe Cornelereau, inutile de le préciser, le temps passe extrêmement vite avec vous. On va terminer cette émission, cet entretien avec un petit questionnaire de Proust qui est un peu réaménagé. Alors on va essayer peut-être des réponses relativement courtes.
Ça, c'est dur.
Si on arrive, c'est difficile.
Mais je vais essayer.
Alors peut-être revenir sur le principal trait de votre caractère, Philippe.
Assez pragmatique. Pragmatique, en retard malheureusement, mais sympathique.
Physiquement, si vous pouviez changer quelque chose sur vous, ce serait quoi ?
Physiquement, sur moi, s'il y avait l'occasion de changer des choses, je changerais deux choses. Mes jambes arquées, que je corrigerais légèrement, parce que voilà, sur un costume, ça fait mauvais genre. Et peut-être me bomber le cul un petit peu comme les fesses de Black, comme je dis, parce que je sais que ma femme aimerait bien ça.
Alors on va parler des femmes justement, la qualité que vous préférez chez les femmes, c'est laquelle ?
Bah, on va dire que c'est la qualité intérieure, le cœur, ce qui se passe à l'intérieur. Mais souvent, les femmes sont très difficiles à comprendre déjà de l'extérieur. Alors, imaginez de l'intérieur.
chez une femme, vous regardez d'abord quoi ? Les yeux, la poitrine, les fesses ?
J'ai une faculté de pouvoir faire un scan assez rapide. Donc, on voit pas à quel endroit je regarde.
Mais votre centre d'intérêt principal, il se situe où ?
Un point très important, et je pense que nos amies femmes de Suisse sont assez bien... fourni de ce côté-là, c'est la poitrine.
Vous êtes plutôt grande blonde ou petite brune ?
Moi, je dirais moyenne brune. Je suis plus en général brune. Je trouve que les brunes ont un petit peu plus de chien en général. Voilà. Après, une très jolie blonde style Adriana Carambeu, bon, voilà, on n'irait pas dormir sur le paillasson.
Ça va. Effectivement, je suis assez d'accord avec vous. Un tête-à-tête comme ça improvisé avec Angelina Jolie ou Angela Merkel ?
Disons que avec une je parlerai beaucoup, avec l'autre j'agirai.
Si vous deviez partir en vacances, ce serait plutôt avec Didier Gayaguet ou Brian Joubert ?
De toute façon, l'un ou l'autre, je pense que je retrouverai les mêmes paroles de chez l'un comme de chez l'autre, en fait.
Mais vous n'avez pas choisi toujours.
J'ai pas choisi parce que pour moi, quand il y en a un qui s'exprime, on a l'impression de retrouver les paroles de l'autre. Donc
vous partiriez pas en vacances.
Finalement, je pense que je continuerai à bosser.
Si vous aviez une baguette magique, là maintenant, vous avez une baguette magique, vous en faites quoi ?
Une baguette magique, j'essaierai de faire aller le monde un peu mieux, un peu plus positif. Donc il faudrait vraiment repartir sur beaucoup de choses à zéro, sur les impôts, tout ça, le monde qui va mal, les pays qui n'arrêtent pas d'être endettés. C'est usant, c'est la santé usante, on se méfie de tout maintenant, on n'ose plus investir, dès qu'on investit, on se fait voler à droite à gauche, c'est très compliqué. Donc si j'avais une baguette magique, j'aimerais pouvoir vivre en fait à l'ère du temps de maintenant, avec l'état d'esprit de ce qui se passait il y a très longtemps, c'est-à-dire quand tout redémarrait. Voilà. Je dirais pas en 1789, mais imaginez un démarrage en 1789 avec les nouvelles lois et tout ça qui arrivaient, qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas une qui contredisait l'autre, avec l'air du temps d'aujourd'hui. Je pense que ça pourrait peut-être être beaucoup plus positif dans le cœur, surtout des Français. Voilà, les Italiens ont dit que c'est un Français heureux. Donc j'aime beaucoup cette expression et j'aimerais bien que voilà le moral des Français soit vraiment... Et je trouve chez vous en Suisse que les gens on garde le moral, ils savent faire la fête encore. Et ça, par les temps qui courent, je trouve que c'est plutôt bien. Donc continuez, voilà.
Philippe Candeloro, l'émission s'appelle Le Défi. On y vient. Quel sera votre prochain défi ?
Ah, mon prochain défi, vous savez, moi, je vis avec des opportunités. Donc, le défi, pour moi, le plus important de ma future vie, ça va être d'essayer de changer d'étiquette. C'est-à-dire enlever l'étiquette du patineur qui a fait ses adieux au niveau sportif de son sport de prédilection pour rebondir sur une autre carrière artistique, que ce soit cinéma, télévision ou spectacle. Et je vais toujours au bout de ce que j'entreprends. Donc, pour l'instant, mon prochain défi sera certainement la comédie musicale sur glace de grande ampleur une fois que j'aurai terminé le tour du monde en 80 jours.
Philippe Cordanoro, merci.
Merci beaucoup. Bonne journée à vous tous.
Merci.
Merci d'avoir écouté Direct News, le podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, ce que l'on espère, eh bien pensez à mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Abonnez-vous à notre flux pour ne manquer aucun des prochains épisodes pour suivre mes entretiens avec différentes personnalités. Retrouvez-nous sur notre site direct-news.info et nos différents médias sociaux Facebook, Instagram, Twitter, Direct News, MR en majuscule.